Ben moi, c'est un rêve. D'abord, j'adore bouffer, surtout les sucreries, mais depuis toujours. Et je me souviens d'un rêve, c'est pas du tout un rêve porno, pas un rêve X, mais je m'en souviens avec ravissement. J'avais un petit Jules américain, je crois que c'est un que de ceux dont j'ai été le plus amoureuse quand j'étais très jeune. Et il était parti... Et je pensais à lui avec beaucoup de tendresse. Et je me pelotonnais dans son souvenir. Et j'en rêvais souvent. Et je me souviens d'un rêve où j'étais couchée contre lui. Et tout à coup, le ravissement qui m'a saisi quand j'ai vu que son zizi, sa caquette, était en chocolat, un de ces chocolats américains d'ailleurs, long, avec des petits trucs croustillants à l'intérieur, délicieux, délicieux. C'est un de mes rêves favoris et il n'y a rien, rien de dégueulasse dedans, voilà. Merci pour votre émission sur la bouffe. Heureusement que j'ai la grippe, sinon je serais allée chez le boulanger. Au revoir.
Ah oui, bonjour, je m'appelle Clara. Voilà, c'est la fin de votre émission sur les bébés qui mangent, le goût. Je suis une maman qui a allaité, donc c'était très chouette. À bientôt, au revoir.
Allô, bonjour, je vous appelle parce que je viens d'écouter votre émission et j'ai entendu ce reportage sur la maman qui était en train de donner la tétée à son bébé et je vais accoucher dans quelques jours et voilà, ça m'a beaucoup émue. Alors, je voudrais dire à mon bébé que ben, je suis bien pressée qu'il arrive pour que moi aussi, je puisse lui donner son premier repas. Merci, au revoir.
Oui, bonjour, je m'appelle Marie-Christine, je suis infirmière libérale. Et j'ai envie de rire parce que je viens d'aller faire une injection à une jeune femme là qui n'arrive pas à avoir d'enfant, donc je lui fais des hormones. La piqûre est payée 4,90€, déplacement compris. Et elle me dit qu'elle travaille dans une usine où on fabrique des sacs de luxe et qu'une fois par an, ils peuvent s'acheter un sac. Ils ne payent que la matière. Donc, en général, c'est 1 000 euros au bas mot la matière. Et ces sacs sont revendus à Paris entre... Alors, je parle en francs, hein, parce que je suis une vieille ringarde. Entre 60 000 francs, mais après en euros, jusqu'à 100, 150 000 euros. Bah, écoutez, je peux pas m'empêcher de rire dans ma voiture, donc j'ai envie de vous le dire, quoi. Ouais, on marche sur la tête, quoi, mais bon, c'est comme ça, hein. Allez, au revoir, à bientôt.
Bonjour, Guylaine de Poitiers. J'ai été très intéressée sur les émissions de Neuilly, des Neuilliens, parce que généralement, on ne connaît pas. Et moi, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est de voir comment marchaient tous leurs réseaux familiaux, jockeys, clubs, etc. Je pense qu'on aurait intérêt à savoir ça mieux, en détail. Et si l'étude des deux sociologues était publiée, j'aimerais le savoir. Alors, par ailleurs, celle qui n'avait jamais rien fait que s'occuper de ses enfants et de ses vieux parents qui étaient débordés, c'est vrai qu'on a envie de leur botter le cul. Mais bon, voilà. Merci, au revoir.
Allô, bonjour, je vous appelle à propos de l'émission qui était très intéressante, mais je voulais parler à propos des nounous africaines. Je voulais vous souligner que les bourgeoises de l'Afrique, perchées sur ce qu'elles croient être la valeur essentielle, c'est-à-dire l'argent ou la féodalité, sont encore pires, sont pires que cette Madame Dumont et sont plus insupportables et plus détestables. Je voulais vous souligner, ça ne change rien au comportement avec les nounous, mais en tant qu'Africaine, je voulais vous le souligner. Je suis sa fille de Vitry, au 4 rue du Chaperon Rouge. Voilà, il fallait que je vous le souligne. Merci et bon courage. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est Florence de Strasbourg. Alors, c'est pour indiquer la date de la prochaine réunion de notre repère de là-bas, si j'y suis, à Strasbourg. Alors, la prochaine réunion aura lieu donc samedi prochain, samedi 29 octobre, à 14h30, au marché-bar rue de Zurich, à Strasbourg. Samedi 29 octobre, 14h30, au marché-bar rue de Zurich, à Strasbourg. Voilà, au revoir.
Et voilà, ils vont se retrouver donc samedi, dans ce repère de là-bas, si j'y suis, de Strasbourg. Ça continue, les repères de tous les côtés. On a des échos, il y en a qui se construisent, qui s'installent. On est très contents de cette histoire de repères. La dame africaine, là, qui est de Vitry, qui a fait ce petit message, c'est dommage, elle n'a pas laissé son numéro, si jamais elle m'entend et qu'elle veut nous rappeler sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Son regard nous intéresse bien. Je rappelle le numéro du répondeur. répondeur 01 56 40 37 37. Merci à tous pour ces messages et navré pour ceux qui passent pas. Ben voilà, c'est comme ça, on ne peut pas faire une heure entière de messages. Aujourd'hui, comme promis, rencontre avec un immense journaliste qui s'appelle Robert Fisk et qui publie un livre événement, un livre épopée, un livre formidable qui s'appelle La Grande Guerre pour la civilisation ou l'Occident à la conquête du Moyen-Orient. C'est un bouquin énorme et c'est une rencontre formidable avec ce géant, on peut dire, du journalisme que nous recevons aujourd'hui.
Jacques Chirac a des entretiens en ce moment même avec M. Saddam Hussein, le numéro 2 irakien. Il est vice-président du Conseil de la Révolution d'Irak. Hier soir, au Beau-de-Provence, ce matin à Cadarache, au centre d'énergie atomique, Jacques Chirac a expliqué au micro d'Alain Trampolieri les raisons de cette visite et ce qu'il faut en attendre.
Nos échanges croissent, vous le savez, depuis un an, à un rythme très accéléré. Alors aujourd'hui, M. Saddam Hussein a souhaité visiter le centre de Cadarache, car il est en train de mettre au point un programme nucléaire cohérent pour l'Irak et la France peut s'associer à cette réalisation.
À noter enfin que Jacques Chirac vient d'annoncer que la semaine prochaine, un accord de coopération nucléaire sera signé entre l'Irak et la France.
Le chef du gouvernement irakien, M. Saddam Hussein, a manifesté un égard tout particulier envers le Premier ministre Jacques Chirac. Il l'a invité à dîner à son domicile, ce qu'il n'avait fait pour aucun autre chef d'État. C'est dire que Jacques Chirac était très satisfait cet après-midi à son retour à Paris. La déclaration qu'il a faite en témoigne.
J'ai des relations personnelles et excellentes avec le vice-président Saddam Hussein. J'ai eu de longs entretiens avec lui sur les problèmes bilatéraux, c'est-à-dire les relations économiques et industrielles entre la France et l'Irak, qui, vous le savez, sont importantes et je dirais d'importance croissante depuis un ou deux ans.
Je suis l'héritier des grands choix de la France, mais a priori le fait que depuis 1975, l'Irak soit le premier client en achat d'armes dans le monde, d'achat d'armes françaises dans le monde, c'est une situation que j'ai trouvée, que je n'ai pas réprouvée. Eh bien oui, nous avons continué d'aider notre ami.
Come out! Open the door! Get your hands up and come outside! Everybody in the house needs to come outside!
Out here in the yard! Keep going!
Salut, c'est Daniel Mermet, la base où j'y suis avec Robert Fisk, La Grande Guerre pour la civilisation.
Flight number 2, arriving from New York.
Tirez pas sur le journaliste, arrêtez, il n'y est pour rien, le journaliste. Il n'en sait rien, le journaliste. Il faut arrêter de dire du mal des journalistes. Ça canarde de tous les côtés. Veulerie, insignifiance, incompétence, et toujours du côté du maître, léchant la main qui le nourrit. Péremptoire, suffisant, tartarin inculte, mariole irresponsable, con, consensuel, et sans suite, il faut arrêter de tirer sur le journaliste. Le journaliste fait son métier, il est objectif.
Il n'a pas à dire ce qu'il pense. Il doit s'effacer en toute neutralité. Il n'y peut rien, il n'en sait rien, sauf quelques-uns. Quelques-uns rares, il est vrai, mais dont on parle bien peu, sinon presque jamais. Voilà pourquoi nous recevons aujourd'hui dans la base, j'y suis, Robert Fisk, qui sort cet énorme bouquin de 1000 pages, La Grande Guerre pour la Civilisation, 1000 pages pour 30 années de reportage et de travail au Proche-Orient. Un témoin engagé sur le terrain, sur les champs de bataille, partout, loin des studios protégés et des plateaux maquillés, quelqu'un qui déclare aujourd'hui les criminels de guerre, c'est nous. Bien sûr, Robert Fisk est celui qui a rencontré Ben Laden à plusieurs reprises. 3 fois, il a rencontré Ben Laden. C'est un de ses titres, on va dire, de gloire, même si c'est pas ce qui correspond, mais c'est évidemment ce qui attire le plus, eh ben, les autres médias sur cet homme des médias. On va dédier cette première heure avec Robert Fisk à un autre Anglais. Il y a 2 Anglais. L'autre, c'est George Orwell, qui, en 1984, dans 1984, décrivait ce que pouvaient être les médias d'aujourd'hui. Retenir simultanément 2 opinions qui s'annulent, alors qu'on les sait contradictoires, et croire à toutes les deux. Employer la logique contre la logique, répudier la morale alors qu'on se réclame d'elle, oublier tout ce qu'il est nécessaire d'oublier, puis le rappeler à sa mémoire quand on en a besoin pour l'oublier plus rapidement encore. La Grande Guerre pour la Civilisation, Robert Fisk.
So here's a toast to all the folks that live in Palestine, Afghanistan, Iraq, El Salvador. Here's a toast to all the folks living on the Pine Ridge Reservation, under the stone cold gaze of Mount Rushmore. Here's a toast to all those nurses and doctors who daily provide women with a choice, who stand down with threat the size of Oklahoma City just to listen to a young woman's voice. Here's a toast to all those folks on death row right now, awaiting the executioner's guillotine, who are shackled there with dread and can only escape into their heads to find peace in a form of a dream. Peace in a form of a dream. Peace in the form of a dream. Cause take away our PlayStations and we are a third world nation, under the thumb of some blue blood royal son who stole the Oval Office and that phony election. I mean, it don't take a weatherman to look around and see the weather. Jeb said he'd deliver Florida, folks, and boy, did he ever. And we hold these truths to be self-evident. Number one, George W. Bush is not president. Number two, America is not a true democracy. And number three, the media is not fooling me. Cause I am a poem heeding hyperdistillation, and I've got no room for a lie so verbose. Yeah. Yes, I'm looking out over my whole human family, and I'm raising my glass in a toast. Here's to our last drink of fossil fuels. Listen, hear the train.
Pour le bien et contre le mal, pour la civilisation et contre la barbarie. Vous souriez en écoutant ces mots, cette vieille chanson qui a précédé et accompagné tant de boucheries. Boucherie, oui, ça continue. La boucherie continue, c'est le cas de le dire, en Irak aujourd'hui. Le titre du bouquin de Robert Fisk, La Grande Guerre pour la Civilisation, il l'a pas inventé. Il l'a trouvé, il l'a lu sur une médaille militaire que portait son propre père. Évidemment, dans l'intention de Fisk aujourd'hui, il y a une ironie grinçante, la Grande Guerre pour la Civilisation. Vous vous souvenez de George Bush nous expliquant après le 11 septembre pourquoi il fallait riposter à cause de la civilisation et contre la barbarie. Eh bien, cette médaille militaire, elle était sur le revers de la veste du père de Robert Fisk, mais c'était une médaille de la guerre de 14. Fisk est un journaliste célèbre dans le monde anglo-saxon, moins ici, mais c'est une des grandes voix et des grandes plumes de contemporaines, et il se réfère toujours à l'histoire. Il essaye toujours de contextualiser ce qu'il voit, ce qu'il écrit, dans le temps plus long de l'histoire. Il passe fréquemment du journalisme, c'est-à-dire l'histoire immédiate, à l'histoire tout court. L'histoire tout court, ça fait 30 ans qu'il arpente le Proche-Orient, après avoir couvert le conflit irlandais. Il s'est trouvé nommé au Proche-Orient, et depuis 30 ans, il est devenu un des meilleurs spécialistes, meilleur observateur, meilleur analyste du Moyen-Orient, mais un observateur engagé qui tire toutes ses analyses, toutes ses idées et toute sa ligne éditoriale, disons, de son expérience de reporter sur le terrain, qui paye de sa personne et de son corps tous ces reportages. C'est un plaisir de rencontrer et un honneur de rencontrer un homme comme Robert Fisk.
Many people would say completely mad.
C'est un homme complètement fou.
I think more and more when I read the book.
Mais quand je relis mon propre livre, je me rends compte que je suis vraiment le fils de mon père. Il était bien plus âgé que ma mère, il était soldat dans la Première Guerre mondiale. Je ne m'entendais pas avec lui. C'est un homme de droite, voire d'extrême droite. Il aimait la police, la justice, la peine de mort. Il était membre du Parti conservateur. Et pendant la Première Guerre mondiale, il a reçu l'ordre de mener un peloton d'exécution pour tuer un soldat australien.
And my father refused.
Mon père, en tant que soldat britannique, a refusé d'exécuter cet Australien. Quelqu'un d'autre l'a fait à sa place. Mais lorsque je me rends compte de cela, de ce qu'avait fait mon père à l'époque, c'est une des choses que j'ai apprises de lui. Il ne voulait pas que je l'apprenne de lui. C'était la nécessité de pouvoir refuser les ordres. C'est d'abord de remettre en cause l'autorité, ce que moi j'ai toujours fait. Et c'était probablement en réaction à lui que je réagissais à l'autorité, que je m'imposais contre l'autorité. Et dans le livre, tout est question de refuser le récit de l'histoire telle qu'elle est présentée par les premiers ministres, les présidents, etc. Par exemple, l'histoire du 11 septembre telle qu'elle est représentée dans la presse occidentale me paraît ridicule. Il faut la revoir. Pourquoi laisser 19 assassins modifier, changer le cours du monde comme M. Bush nous dit? Moi, je veux pas que ces gens changent ma vie, changent mon monde. Et l'histoire du Moyen-Orient qu'on nous raconte n'est pas celle de la réalité. Et mon père s'intéressait beaucoup à l'histoire notamment de la Première Guerre mondiale, et moi quand j'étais écolier, je savais bien plus de choses sur cette guerre que mes camarades de classe. Et c'est comme ça que j'étais élevé dans l'histoire, et quand j'avais 10 ans, mon père m'a emmené sur les champs de bataille du nord de la France, et j'ai appris ces histoires, ces batailles de la guerre, et à chaque fois je suis retourné à Verdun, à tous ces sites des batailles de la Somme par exemple, et donc j'ai grandi avec ces histoires de la guerre, cette histoire de la guerre, et avec cette histoire également de refuser l'autorité, ne pas se laisser mener par les autres.
Votre livre essaye de recontextualiser tout ce à quoi vous assistez, tous les événements, vous essayez de les replacer dans un contexte historique.
Vous référez toujours effectivement à votre père, hein, ça revient en permanence, et vous revenez très souvent à la Grande Guerre de 14-18.
The reason for this is that
oui.
in 17
et la raison est c'est qu'il y a les 17 mois qui ont suivi
we,
la Première Guerre mondiale, nous autres, les vainqueurs, les Français et les Anglais, nous avons retracé les frontières du Moyen-Orient, de la Yougoslavie, de presque tout le monde occidental. Et j'ai passé une grande partie de ma vie à Belfast, mais également à Bagdad, à Beyrouth, et j'ai vu ces foyers brûlés, et je suis impressionné par le fait que nous vivons tous dans cette espèce de boîte de l'histoire qui a été créée par la Grande Guerre de mon père. Et lorsqu'il est mort en 92, j'ai hérité de sa médaille de campagne qu'on présentait dans la grande encyclopédie britannique pour dire voilà la guerre pour la civilisation. C'est ce que mon père croyait, c'était la guerre pour la civilisation. J'allais en faire d'une certaine façon le titre de mon livre, mais enfin un titre ironique cette fois. Et pour moi, je crois que cette guerre, la Grande Guerre, a créé le Moyen-Orient dans lequel je travaille.
Hey Bush, what do you say? How many kids did you kill today? Hey Bush, what do you say? How many kids did you kill today?
Now that we have won the fight, all together we will write the last page of Mein Kampf. We will write it, yes indeed, so the whole wide world can read the last page of Mein Kampf. The book is full of hooey, the way it's written now. The plans of Schicko Gruber, we've changed them all and how. Now that we have won the fight, all together we will write the last page of Mein Kampf.
Alors voilà le point de départ paternel, le point de départ historique. Vous vous référez très souvent à l'histoire sur un plus long terme. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir comment vous êtes devenu journaliste. Là, on voit la motivation familiale. Comment vous avez commencé ? Ça fait 30 ans que vous arpentez cette région du monde, c'est-à-dire Moyen-Orient et Proche-Orient. Comment vous avez commencé?
Ce
qui m'a amené à devenir journaliste à 12 ans, j'ai vu un film de Hitchcock.
À 12 ans, bien sûr. And I saw Alfred Hitchcock movie.
Donc j'ai vu ce film d'Hitchcock et je suis sûr que vous l'avez pas vu. Ça s'appelle Foreign Correspondent. Correspondant à l'étranger, vous avez un journaliste qui est envoyé en Europe juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Le film a été tourné en 1941, au début de la guerre. Il va en Europe, il voit un assassinat. Il poursuit des Allemands, des espions allemands. Son avion est descendu par un cuirassé allemand. Il survit, il va à New York, il rencontre cette superbe femme dans le film, et je me suis dit, voilà, j'aimerais, ça c'est un bon job. Alors, ça ne s'est pas passé comme ça, mais c'est ce qui m'a poussé à devenir journaliste. Alors, pourquoi le Moyen-Orient maintenant? Il faut se rappeler que je couvrais la suite de la révolution au Portugal. J'ai reçu une lettre de mon rédacteur.
74. It was in 76.
Non, 76. Ça, c'est le premier grand reportage, c'est Portugal. La révolution des œillets.
Après la révolution. Mais I received this letter from the
Donc je reçois cette lettre du rédacteur de mon journal qui dit que notre correspondant en Beyrouth s'était marié à une princesse milliardaire qui voulait passer sa vie dans un pays en guerre, donc il m'a proposé d'être le correspondant du Times au Moyen-Orient. J'avais 27 ans, je me suis dit que ce serait une grande aventure avec beaucoup de soleil, c'est ce qu'on m'a promis en tout cas.
Alors,
je ne sais pas le côté aventure, mais enfin, le soleil c'est plutôt comme une épée au-dessus de la tête. Enfin, je me suis rendu au Moyen-Orient. C'était effectivement une belle aventure au début pour suivre, par exemple, l'invasion soviétique en Afghanistan, les soldats de Stalingrad qui se retrouvaient là-bas, la révolution islamique en Iran que j'ai pu voir. Alors, pour un jeune homme que j'étais, c'était évidemment des moments très historiques. J'écrivais littéralement l'histoire. Et puis, peu à peu, tout cela m'a déprimé. L'histoire m'a beaucoup plus déprimé.
Mort à Lénine, mort au léninisme.
Partagez-vous en deux groupes. Un groupe à l'est,
un groupe à l'ouest.
Novembre 1980.
Roménie, le briseur des idoles, est notre guide. Nous sommes tous les soldats de Roménie. Nous sommes à tes ordres, Roménie. Hussein, crève donc. Carter, sois déshonoré.
Extraordinaire livre, épopée, véritable épopée, fresque, souffle. Tous ces mots-là vont être employés pour qualifier le bouquin de Robert Fisk, qui sort en même temps en Grande-Bretagne et aux États-Unis, la grande guerre pour la civilisation. Alors évidemment, Fisk, qui a 59 ans maintenant, il est assez marrant physiquement. C'est le contraire d'un baroudeur, on dirait plutôt le genre de gars qu'on rencontre dans un pub à Dublin ou à Londres, plutôt qu'un un baroudeur qui la ramène. Et pourtant, Dieu sait s'il a baroudé, il est toujours sur la photo, Fisk. Il est toujours dans toutes ses batailles. Il est évidemment irrésistiblement. On pense à Capa, on pense à guerre d'Espagne, Hemingway, etc. Enfin, il est de la trempe. John Reed, etc. Il est de la trempe de ces hommes-là, de ces hommes qui, même s'ils s'en défendent, ont envie de jouer leur rôle dans l'histoire. Peut-être pas, évidemment, infléchir le cours de l'histoire complètement, mais de jouer leur rôle dans l'histoire, c'est-à-dire être là où ça se passe pour pas que ça se passe comme ça. Même s'ils s'en défendent, et en l'occurrence, dans le cas d'un journaliste comme Fisk, c'est physiquement qu'il y va, qui va éprouver la vie, la souffrance, les situations, les climats, et qu'il revient après la bataille, il revient après l'événement pour comprendre, pour sentir ce qui, qu'est-ce que ça devient. C'est-à-dire que c'est un esprit de suite. C'est-à-dire que c'est le contraire des médias qui sont non seulement aujourd'hui la fabrique du consentement, pour reprendre l'expression de Chomsky, mais aussi la fabrique de l'oubli, la fabrique de la disparition. C'est au contraire une volonté acharnée de penser, de penser, de penser.
Je crois que notre métier, c'est d'être témoin de l'histoire, d'écrire peut-être les premières pages de l'histoire, mais ça va au-delà de cela. Il y a quelques années, j'ai rencontré ce Amira Haas, une journaliste israélienne,
pour lequel nous avons beaucoup d'admiration.
La journaliste israélienne. Et elle m'a dit, non, Robert, ça n'est pas ça notre métier. Notre métier est de surveiller en quelque sorte les centres du pouvoir, et plus que de les surveiller, les remettre en cause. Je les remettre en question, surtout lorsqu'ils déclarent la guerre, surtout lorsqu'ils vont tuer des gens, surtout lorsqu'ils se servent de vie humaine pour arriver à leur fin. Et ça, c'est probablement la meilleure définition du journalisme. Je ne sais pas si nous réussissons toujours, mais enfin, c'est notre mission. Et de plus en plus, avec l'âge, avec l'expérience, avec les guerres du Moyen-Orient, je me suis rendu compte qu'il faut de plus en plus remettre en cause, défier même l'autorité. J'ai vu le Conseil de sécurité des Nations Unies, où dans la salle, on voyait Colin Powell qui parlait des armes de destruction massive en février 2003. Et je me rappelle les sous-titres qui apparaissaient, ces images des représentations d'armes chimiques et autres. Et George Tenet était juste derrière le patron de la CIA, derrière Powell, et je me suis dit, ce sont des mensonges. Ceci ne peut pas être vrai, le fait qu'il y ait des gens qui menaient des expériences chimiques dans des camions alors que l'Irak était complètement immobilisé. Et j'entendais la traduction de ces conversations téléphoniques qui ne paraissaient pas justes. On sentait que ce n'étaient pas des Irakiens qui se parlaient entre eux. Tout cela a été fabriqué de toutes pièces. Et je me suis dit, ce pays va à la guerre, mais une guerre qui est basée sur les mensonges et la folie.
We concluded that tomorrow is a moment of truth for the world.
Ready? Now go!
We have no ambition in Iraq.
Good morning, America.
We have no ambition in Iraq.
I approve this.
We have no ambition in Iraq. We have no ambition in Iraq.
No justice, no peace.
No justice, just no peace, no peace, no peace. No ambition in Iraq. And I approve this message.
Vous avez parlé d'Amir Haas, et vous, est-ce que vous vous voyez comme un journaliste engagé?
I hope so.
Ah oui, parce que l'idée selon laquelle les journalistes seraient neutres en quelque sorte est absurde. Vous voyez une atrocité dans une rue de Paris, par exemple, que vous soyez conducteur d'autobus ou banquier ou que sais-je, nous avons aussi, journalistes, le droit d'être en colère lorsque vous êtes bouleversé par quelque chose. C'est votre droit aussi. Vous voyez les victimes d'un massacre, on peut en parler avec passion et j'ai le droit de le faire. Et si je dis ici, voici les gens qui ont perpétré cette atrocité, il faut pouvoir les montrer du doigt. C'est notre droit.
Mais Robert, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes invité dans une école de journalisme? Vous avez demandé une conférence au grand reporter Robert Fitt. Quand vous dites ça dans une école de journalisme, d'abord, on vous invite pas.
People don't invite you, I imagine.
Or do they?
I don't believe in schools of journalism.
Moi, de toute façon, je ne crois pas aux écoles de journalisme. Si on veut être journaliste, il faut étudier la politique et l'histoire. Et oubliez les écoles de journalisme. Les écoles de journalisme aux États-Unis, vous dites 50% du rapport doit être pour un côté et l'autre moitié pour un autre côté, c'est-à-dire la thèse et l'antithèse. Mais enfin, si vous parlez de la traite des Noirs au XVIIIe siècle, est-ce qu'il faut accorder autant d'intérêt pour les marchands d'esclaves ou les esclaves eux-mêmes? Bien sûr que non. Ou même si vous parlez des camps de concentration, est-ce qu'on va s'intéresser autant aux SS qu'aux victimes? Bien sûr que non. Lorsque j'étais à Jérusalem, j'étais prêt, j'avais suivi les Palestiniens qui avaient envoyé des kamikazes dans les autobus. Moi, je me suis plus intéressé aux victimes qu'à Hamas dans ce cas-là. Et là, je crois que c'est le cas de tout le monde. Tout le monde a un parti pris, mais nous avons également des idées, des principes moraux. Hein. Moi, je ne suis pas là simplement pour établir un catalogue des porte-paroles de différentes causes. Moi, je reflète quand même l'humanité ou l'inhumanité de ce que je vois. Et si je ne le fais pas, alors pourquoi risquerais-je ma vie au Moyen-Orient?
CBS News, I'm Dave Barrett. He was a lead pilot on an American B-52, which rumbled into the air today and dropped bombs on Afghanistan. He goes by the code name Woodstock.
One of the aircraft we flew tonight had very recently been painted with NYPD. We remember.
There was also this promise at midday from the White House as U.S. planes and missiles headed towards Afghanistan.
The battle is now joined on many fronts. We will not waver. We will not tire. We will not falter.
Terrorist training sites and air defenses among the first targets. Bomb damage assessment now underway, and the Taliban could have given up Osama bin Laden, says British Prime Minister Tony Blair.
We waited so that those responsible could be yielded up by those shielding them.
Vous avez couvert la guerre du Liban, la guerre irlandaise, enfin les événements en Irlande, l'invasion, l'intervention soviétique en Afghanistan, la guerre Irak-Iran, la première guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe, la troisième guerre du Golfe, 94, ensuite l'invasion de, enfin l'offensive de 2003. Et tout au cours de ça, vous avez suivi aussi le conflit israélo-palestinien, plus le Kosovo, etc. Vous êtes un correspondant de guerre, en fait.
No, I don't like the expression.
Je n'aime pas l'expression correspondant de guerre. Effectivement, je suis un correspondant du Moyen-Orient. Ça n'est pas ma faute si c'est par la guerre que les gens là-bas essaient de régler leurs problèmes. Il y a également une idée romantique du correspondant de guerre que je n'aime pas trop parce qu'elle nous rappelle un petit peu ces journalistes du 19e siècle qui étaient là dans des salons avec des ravissantes jeunes femmes à entendre le son du canon dans les campagnes. Ça n'est pas tellement l'idée que je me fais de ma profession. Je m'occupe de politique également, j'ai mes idées d'analyse. Il fait trop chaud au Moyen-Orient pour se balader avec un gilet pare-balles, mais je ne me mets pas non plus en costume du 18e siècle. Je suis là un peu en tenue de combat allégée, c'est-à-dire que je n'aime pas cette notion, disons, macho maintenant du correspondant en guerre, qui est là de s'amuser agréablement à New York, à Londres, et puis ensuite visiter des lieux de famille, de famine et de mort avec un œil distant. Moi, ça ne me plaît pas.
Pourtant, dans vos récits, très souvent, vous dites, vous exprimez une fascination pour la guerre.
Fascination pour la guerre, non, je ne pense pas.
Robert, vous dites c'est une drogue. Vous dites la guerre est une expérience douloureuse et attirante. C'est une drogue.
It's not a drug. It is the last unique
disons que c'est la seule expérience qui nous reste qui soit gratuite, c'est-à-dire risquer nos vies et voir l'horreur que l'être humain peut causer à d'autres êtres humains. Et Churchill disait que rien n'est plus satisfaisant que de se faire tirer dessus sans protection. Et je me rappelle dans les premières années de la guerre du Liban, j'allais dans le sud du Liban, je parlais à des civils qui se faisaient bombarder, sortir de là à toute vitesse comme des rats assiégés. Ensuite aller à Beyrouth rencontrer une jolie jeune femme, dire voilà, j'ai survécu et je suis prêt à recommencer demain. Ça c'était quand j'étais plus jeune, lorsque c'était une aventure romantique. Mais maintenant, de plus en plus, avec l'âge, tout ce que je vois me déprime. C'était une expérience déprimante d'écrire cet ouvrage. Les 200 premières pages qui s'appuient sur mes propres archives que j'ai écrites lorsque j'étais plus jeune, au bout de 200 pages, je me suis rendu compte que tout cela me déprimait profondément, parce que lorsqu'on est journaliste sur le terrain, on va sur la ligne de front et c'est un petit peu comme s'il n'y avait plus de Noël et de vacances. Et à ce moment-là, on se rend compte de ce que ces gens ont vécu. Hein, ces habitants du monde arabe, musulman, ont beaucoup souffert. Et là, on dit, il ne s'agit pas de faire de s'amuser, il vous faut maintenant un peu de repos. Et c'est vrai que je vivais dans la mort, dans le sang, depuis des années. Et au bout de 200 pages, je voyais que mon livre ressemblait à une espèce d'élégie de la mort, du nettoyage ethnique et compagnie. C'est une expérience très déprimante. Et ce n'était pas un livre très heureux. Et je n'ai pas envie de le réécrire, croyez-moi.
Chaînes d'information continue ou chaînes généralistes qui ont interrompu leur programme pour l'occasion. Elles ont planté leur caméra Plaster House depuis 3h30 de l'après-midi heure française. Et seuls les commentaires changent, mais à peu de choses près. Car pour tout le monde ici, ce qui se déroule à Bagdad est un événement considérable, historiquement aussi important selon Fox News que la chute du mur de Berlin. C'est même plus important aux yeux des Américains qui se réveillent, car ce sont des Marines et des hommes de la 3e division qui libèrent Bagdad, qui montent sur la statue de Saddam Hussein pour lui coller la bannière étoilée sur le visage, puis le drapeau irakien, que c'est un soldat du Texas qui s'adresse à la caméra et qui dit qu'il a pratiquement fini son boulot, qu'il aime encore plus sa femme qu'avant. Gros plan sur lui, V de la victoire, retour en studio à New York. Le commentateur n'oublie pas de saluer les 91 militaires américains qui ont donné leur vie pour cela. Les Irakiens semblent un peu absents du tableau. Washington, Laurence Simon, France Inter.
Deux explosions viennent de secouer le centre de Bagdad. La place Ferdous est enveloppée d'une épaisse fumée. Les gardes de sécurité irakiens repèrent alors un troisième véhicule suspect à gauche, octobre 2005. En bas de l'image. C'est une bétonneuse. Deux tirs vont toucher le camion. Les kamikazes déclenchent leurs explosifs. Les trois attentats se sont produits près des hôtels Palestine, Sheraton et Sadir, fréquentés par des journalistes et des employés étrangers. Dans les couloirs de l'hôtel Palestine, c'est la panique. Les journalistes, le personnel quittent en urgence les chambres et les bureaux. L'identité des victimes n'est pas encore connue. Le lieu de ces attaques est plus que symbolique, des quartiers généraux de la presse, mais aussi là où trônait jusqu'à la chute de Bagdad en avril 2003, la statue de Saddam Hussein.
Vous avez couvert la guerre du Liban, la guerre irlandaise, enfin les événements en Irlande, l'invasion, l'intervention soviétique en Afghanistan, la guerre Irak-Iran, la première guerre du Golfe. Oui, est-ce que quand même sur ces 30 années de travail et surtout donc au Proche-Orient et au Moyen-Orient, est-ce que vous avez vu une amélioration, une évolution en quelques mots? Est-ce que on va vers une libération de ces peuples, parce que c'est ce que vous dites au fond, le monde arabe que vous connaissez bien, et puis aussi l'Afghanistan, etc. Leur souci primordial, ce qui fait marcher ces peuples, c'est de se libérer tantôt des soviétiques, tantôt d'autres invasions, mais c'est se libérer de nous. Vous dites, ils veulent se libérer de nous.
Look, I think this all revolves around how you
Voyez-vous,
understand history.
Je crois que tout cela dépend de la
For
façon dont nous comprenons l'histoire. Nous, en tant qu'Occidentaux, on va parler des chrétiens. On parlait des musulmans contre l'Occident. Bon. Disons, pour nous, les Occidentaux, nous avons un petit peu fermé la porte sur l'histoire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec la création des Nations Unies, de l'Union Européenne, la fin de la Guerre froide, etc. Mais au Moyen-Orient, l'histoire est toujours présente, elle est omniprésente. On ne peut pas dire on oublie la déclaration de Balfour, Sykes-Picot ou Oslo parce que les accords d'Oslo n'ont pas marché. À 2 kilomètres de chez moi, à Beyrouth, il y a un camp de réfugiés de Sabra et Shatila, ce qui était la scène du massacre de 80. J'ai vu ça. Bon, j'ai un ami journaliste qui se réveille tous les matins dans ses taudis en raison de ce qui s'est passé en 48 avec la fondation de l'État d'Israël, l'exode palestinien, parce que Balfour a été en faveur de la création d'une terre juive en Palestine et la protection des populations arabes, qui promesse qu'il n'a pas tenue. Donc, pour mon ami Mohamed, qui vit dans les camps de Sabra et Shatila, la déclaration de Balfour, c'était la semaine dernière. Nous disons aux Arabes, il faut oublier l'histoire et tout recommencer. Nous avons la chance en Europe de pouvoir le faire, de pouvoir oublier l'histoire, mais pas eux. Et il y a ce décalage entre nos ambitions pour eux et leur propre vie.
Et tout votre bouquin, c'est de lutter contre l'oubli. Parce que un journaliste, un reporter, un correspondant, comme on voudra, comme vous, pond des papiers toutes les semaines, je sais pas à quel rythme vous travaillez, mais évidemment vous êtes obligé d'aller sur un autre événement, puis sur un autre événement, puis sur un autre événement, et là vous revenez sur l'ensemble de votre travail et de votre vie pendant 25-30 ans, un peu pour vous demander un peu ce que vous avez vécu.
Yes, and that's one of the reasons why after
Oui, c'est l'une des raisons pourquoi, après beaucoup de guerres comme celle de la guerre Irak-Iran, je me rends justement sur les champs de bataille où j'avais vu des soldats et je vois les soldats ou la famille des soldats que j'avais rencontrés, aussi bien d'ailleurs du côté iranien que du côté irakien, et je commence à comprendre le sens de ce que j'avais vu 5 ou 6 ans plus tôt. Et en même temps, je retourne voir les Libanais qui se rappellent la Deuxième Guerre mondiale, le mandat français, même la Première Guerre mondiale. Il y a des survivants. Et quand je parle du génocide arménien de 1915, je vais dans les foyers à Beyrouth et je rencontre les Arméniens très âgés dont les enfants se rappellent encore le génocide des Turcs, perpétré par les Turcs, question importante en France, enfin, grâce au président Chirac qui l'a ravivé. Et curieusement, ils parlent turc, ils n'ont jamais appris l'arménien, donc il faut rencontrer un Arménien qui rencontre la langue qu'ils connaissent, la langue de l'oppresseur, pour traduire ce qu'il me raconte. Et là, c'est vraiment le véritable premier génocide de l'histoire. Et ce sont des témoins encore vivants. Et quand on leur parle de ces génocides, on voit qu'il y a un parallèle avec le génocide des Juifs dans la Shoah, dans la Deuxième Guerre mondiale. Et il y avait, j'avais rencontré des soldats de l'armée en 1915 qui se sont retrouvés comme dans la Deuxième Guerre mondiale. De la Première Guerre mondiale, ils se sont retrouvés dans la Deuxième Guerre mondiale, les auteurs du génocide contre les Juifs. Donc ils avaient un génocide apparu d'entraîner l'autre. C'est là qu'ils avaient trouvé leur formation. Alors évidemment, les Israéliens disent qu'il faut que c'était une guerre civile en 1915, alors que non, c'était le génocide des Arméniens et était l'ancêtre de la Shoah. Hein, et il y a une autre connexion, hein, cette fois avec le monde occidental, entre guillemets, qui se retrouve justement dans ce parallèle entre le génocide arménien et la Shoah. Et il faut avoir présent cette histoire, présent à l'esprit cette histoire, pour pouvoir comprendre un petit peu tous ces événements, pour les faire comprendre également ce qui se passe aux lecteurs ou aux auditeurs, comprendre que cette tragédie nous concerne autant qu'eux.
C'est-à-dire qu'on dit que le journalisme, c'est l'histoire immédiate, et avec ce bouquin, vous passez de l'histoire immédiate à l'histoire tout court.
That's what it was intended to be.
En tout cas, c'était effectivement mon intention.
Quand je suis arrivé à la groupe, je commençais à pleurer et j'ai entendu Zépur, Zépur, mon nom, crier quelqu'un. C'était une cousine de ma mère. Après, j'ai trouvé ma mère dans un autre groupe, toute nue, une chemise de nuit, les cheveux, il n'y a pas peigné pour payer. Alors, vous savez qu'est-ce que j'ai senti? Je sentais comme une mendiante, ma mère. Et j'étais très bouleversée. Après, c'était Exode. 1914, on nous a, 1915, on nous a fait exode et massacre en même temps. Nous avons compris qu'ils voulaient nous anéantir, la Turquie. Ils voulaient nous finir. Parce qu'il y avait la terre que nous demandions de temps en temps, jusqu'à maintenant même. Alors, pour ça, il a peur, il voulait nous détruire, toujours. Malgré que nous étions comme les Turcs. Nous parlions comme la langue maternelle de la Turquie. Nos enfants allaient à l'école turque aussi pour apprendre la Turque. Comme ici, maintenant, la même chose.
Madame Zépur, qui nous avait raconté ça, ce que fut ce génocide des Arméniens de 1915. On est toujours avec le journaliste anglais Robert Fisk, qui habite, comme il vient de dire, depuis longtemps à Beyrouth, et qui est celui qui a rencontré Ben Laden.
France Inter.
Est-il vraiment vivant ou vit-il? Il y a toujours des doutes autour de l'existence de Ben Laden. Et pourtant, on entend de nouveau sa voix. La chaîne arabe Al Jazeera a donc diffusé hier soir une bande sonore attribuée au chef du réseau Al-Qaïda. Dans ce document, Ben Laden réclame un soutien au régime irakien, les intérêts des musulmans, dit-il, même s'il n'est pas d'accord avec les gouvernements païens du monde arabe, souligne-t-il, dont l'Irak. Et encore une fois, Ben Laden lance un appel au djihad contre les États-Unis et tous ceux qui les soutiennent. Je vous propose un extrait de cette intervention.
Ce que craint l'ennemi, c'est la guerre urbaine. Et c'est là qui risque des pertes considérables. Nous soulignons l'importance des attaques martyrs. Ces attaques ont été, pour l'Amérique et Israël, une catastrophe comme ils n'en avaient jamais connue auparavant. Tous ceux qui soutiennent l'Amérique, tous ceux qui auront accepté d'appuyer cette guerre des croisés par un soutien logistique ou en mettant leur base à la disposition de l'ennemi, tous ceux-ci qui auront contribué à tuer des musulmans en Irak sont considérés des apostats dont le sang doit être versé.
Alors, on va commencer évidemment par ce qui est un peu le moteur du livre, enfin ce qui est l'accroche, on va dire, du livre, c'est vos rencontres avec Ben Laden. Vous êtes le seul journaliste à avoir rencontré Ben Laden. Trois fois de suite, vous l'avez rencontré, en 93, en 96 et en 97. Évoquez-nous ces trois rencontres rapidement.
You know, Ben Laden will live with me for the rest of my life.
Ben Laden restera dans ma vie jusqu'à la fin de mes jours.
Ah bah oui, fallait pas y aller.
I suspect I may live with him for the rest of his life.
Peut-être que je fais partie de sa vie aussi jusqu'à la fin de ses jours. La première fois que je l'ai rencontré, il pensait que j'allais lui parler du terrorisme à tout bout de champ. En fait, je me sers pas du mot terrorisme. Je parle plutôt de crime contre l'humanité. Le terrorisme est devenu une espèce de point de ponctuation en langage journalistique. C'est un non-sens sémantique. Il y a des crimes contre l'humanité, il y a la justice, il y a des tribunaux, voilà ce qui existe. La première fois que j'ai rencontré Ben Laden, je ne vais pas parler de terrorisme, mais de son expérience dans sa lutte contre les Russes. Et finalement, l'invasion en 1979, il était d'ailleurs de notre côté, de même que Saddam était de notre côté. Et il voulait en parler de cette invasion soviétique de l'Afghanistan, il voulait parler de son expérience religieuse. Il m'a dit comment un mortier russe est arrivé à ses pieds, il s'attendait à mourir, il était parfaitement serein. Et c'était un moment important pour lui, c'est-à-dire que la mort n'avait pas de sens pour lui, et j'ai commencé à comprendre un petit peu quel était ce Ben Laden qu'on allait rencontrer plus tard, c'est-à-dire quelqu'un pour qui la vie humaine était comme la vie après la mort. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'idée de vivre ou de mourir, n'avait aucune signification particulière. La fois suivante, c'est lui qui a demandé à me rencontrer, hein, en Afghanistan cette fois-là. Et là, je ne suis pas allé le rencontrer, je ne voulais pas lui donner l'impression qu'il suffisait de claquer du doigt pour m'avoir à ses pieds. J'ai attendu quelques semaines, j'ai dit non, j'ai des choses à faire, je viendrai lorsque j'aurai le temps. Et ce que j'ai fait, bien sûr, je n'allais quand même pas le rater. Et c'est un homme, à ce moment-là, beaucoup plus passionné, furieux contre la famille saoudienne. Il voulait que les Américains quittent le Golfe, mais surtout, sa colère était contre la famille royale saoudienne, la corruption,
Et, c'était un petit peu, enfin, il voulait peut-être devenir calife à la place du calife. On avait un peu cette impression. Et puis ensuite, la troisième fois, c'était une situation beaucoup plus grave, 1997. Et là, il s'intéressait au monde occidental, il voulait dégager l'Occident du Moyen-Orient. Et à la fin de la conversation, c'était dans un camp sur une montagne afghane, un camp qui avait été construit d'ailleurs par la CIA à l'origine d'ailleurs. Et il m'avait dit, Monsieur Robert, de ce promontoire, nous avons détruit l'armée russe et dérouté l'invasion soviétique. C'était pas tout à fait vrai, c'était une exagération, mais enfin quand même. Et puis il m'a dit, Monsieur Robert, je prie Dieu qu'il nous permette de faire de l'Amérique l'ombre d'elle-même. Et je me rappelle avoir noté dans mon carnet, après, il y avait trois lignes à côté de ce paragraphe que j'avais noté avec le mot rhétorique point d'interrogation, parce que je me disais, est-ce que c'était de la rhétorique de Ben Laden? En fait, non. Ben Laden pensait chaque mot qu'il disait. C'est le seul arabe que j'ai rencontré, en tout cas, qui, en réponse à une question, dit tout de suite la première chose qui lui vient à l'esprit. Souvent, on a l'impression que si on ne répond pas tout de suite, on a l'air un peu bêtement. Lui, il pouvait attendre une minute avant de répondre à une question. Et pendant ce temps-là, il se nettoyait les dents avec un petit bout de bois. Et puis, il commençait à répondre au bout d'une minute. Et là, j'aurais dû me rendre compte, lorsqu'il disait de faire de l'Amérique l'ombre d'elle-même, il était tout à fait sérieux. Et effectivement, lorsque j'ai vu ces images des Twin Towers qui s'effondraient dans un nuage biblique, en quelque sorte, je me dis, eh bien, New York est devenue l'ombre d'elle-même.
Demain, la suite. Merci Robert Fisk. Merci aussi au traducteur Robert Wolfenstein. Merci aussi à Catherine Louis de l'INA pour les archives. Donc le bouquin, je rappelle encore une fois le titre, La Grande Guerre pour la Civilisation, aux éditions La Découverte. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique Émission là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Alain Arnstam et Christophe Papon et Éric Morin. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale. Assistante Pascal Le Pascaliello. Le répondeur, c'est Christophe Imbert et le numéro, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.